Redécouvrez un art, une statuaire, un artisanat et aussi le monde vu par des auteurs maliens. Dogon, un hors-série Télérama à lire en ce moment et à retrouver dans les émissions de France Inter. France Inter.
La différence.
15h04 et vous retrouvez Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Je suis triste. Je suis très, 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 très triste. Isabelle n'a pas été élue. Isabelle Balkany n'est pas réélue. Oh, quelle catastrophe, mon Dieu, quelle catastrophe. La meilleure amie de notre cher président n'est pas réélue. Et toi, Daniel, t'as même pas organisé une journée de deuil ni une semaine de deuil. C'est triste. C'était un message de Hamid, de Rennes.
Bonjour, je vais juste attirer votre attention sur la guerre en Côte d'Ivoire. Simplement pour vous dire qu'un Rwanda bis est en train de voir le jour au vu et au su de tous. Je supplie la population française d'élever sa voix pour signifier aux politiciens français que la guerre n'est pas forcément la bonne solution pour résoudre la crise ivoirienne. Non à l'intervention de la licorne. Non au tir sur les populations, non à la prise d'otages des civils ivoiriens. Je vous remercie beaucoup et j'espère que mon message sera diffusé pour atterrir dans les oreilles des personnes intéressées. Merci, au revoir.
À cause d'un affaiblissement idéologique de classe, la pensée dominante a réussi à contaminer une grande majorité de la société avec l'expression « égalité des chances. La chance, c'est le hasard, la probabilité. A l'inverse, cotiser selon ses moyens et être éduqué selon ses besoins rejoint les principes du Conseil national de la résistance où l'éducation nationale doit offrir à toute la nation d'égales possibilités de développement. Régis de Nîmes.
Bonjour à tous. Le combat pour l'égalité homme-femme est toujours à l'ordre du jour. De quelle façon les femmes assument-elles leur fonction de responsable? Comment le font-elles en tant que femmes? Accéder à des responsabilités, est-ce encore un combat pour les femmes? Que faire pour que, dans une fonction de responsabilité, femmes et hommes soient traités de façon équitable? Dans le Gers, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le groupement d'entraide sociale territoriale en SAVES, membre du réseau Résolument Égalité du Gers, organise une soirée débat sur le thème « Les responsabilités ont-elles un sexe ?». Venez écouter des témoignages et participer à des échanges avec des femmes engagées dans les domaines professionnels, politiques, syndicales et associatifs. Ce sera le jeudi 7 avril à partir de 20h à la Halle au Grain de Saint-Matin dans le Gers. Entrée libre et gratuite. Merci à toi Daniel pour tes émissions. Heureusement que tu es là. C'était Claire Estévez de Mont-Blanc.
La bataille pour 2012 est commencée. On n'en est pas encore aux mines antipersonnelles et aux armes lourdes, mais certains lancent déjà des boules puantes contre les candidats de gauche dangereux pour le pouvoir. Ainsi, à propos de l'affaire Alexandre Guérini de Marseille, Transparency International, section française, reproche à Martine Aubry de ne pas sanctionner immédiatement Jean-Noël Guérini. Bien instruit par là-bas si j'y suis sur l'opacité de certaines associations au titre ronflant, j'ai un peu cherché sur Internet. Transparency International est une association créée en 1994 à Berlin par un ex-directeur de la Banque mondiale et qui a pour but de dénoncer la corruption des États et des élites politiques. A noter que c'est le thème principal de l'extrême droite européenne. Sa section française qui siège à Neuilly est dirigée par Daniel Lebègue, haut fonctionnaire des finances qui est très rapidement allé pantoufler dans les banques, dont la BNP, dès sa privatisation par Édouard Balladur en 1987. Il est par ailleurs administrateur d'au moins 4 grandes entreprises du CAC 40, tout en étant président de l'Institut du Développement Durable. Il est donc bien qualifié pour donner des leçons de morale en politique.
Bonjour Daniel, les enseignants de la Busserine en direct de Marseille dans le 14e, nous vous laissons ce message car nous ne pouvons pas rentrer dans l'école aujourd'hui puisque l'école est occupée par les parents d'élèves qui se manifestent contre les suppressions de postes dans le secteur. Voilà, bonne journée, Daniel.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Alors, j'ai vu que ce soir, il y avait un colloque sur les musulmans, les bougnoules, enfin, je ne sais pas trop le... Ah oui, la laïcité, voilà. Il y a un colloque UMP sur la laïcité, enfin les bougnoules, quoi. Et je me disais que ça serait une bonne occasion de prendre faire des propositions. Moi, par exemple, je verrais déjà, par exemple, on pourrait faire un petit fichier. Ça, on mettrait tous les musulmans dessus. Comme ça, ce serait pratique pour, quand il y a des endroits en nombre en fer, on se réhabite. Et après, par exemple, on pourrait aussi, pour la culture générale de tout le monde, pour rapprocher les différences, à faire une exposition sur le musulman. Le musulman dans la société française, le musulman à la banque, le musulman dans le monde du cinéma, le musulman dans le monde des affaires, etc. Voilà, faire des trucs comme ça, puis voilà. Puis c'est vrai qu'il y en a qui veulent même porter de petites voiles vertes. Ça serait pas mal tout ça, non? Attendez, pardon, excusez-moi, on me parle dans mon oreillette. Ah, ça a déjà été fait avec d'autres. Ah bon, ben je sais pas, je pense avoir eu une bonne idée, mais bon, non, il paraît que ça a été déjà fait. Bon, mais non, mais j'aurais pu, quoi. Non? Bon, c'est pas une bonne idée? Ah bon, pourtant, Hortefeux, je pense qu'il y avait pensé, non? Oui, Hortefeux, non. Bon, bon bah, écoutez, bah, tant pis. Je sais pas, je vais continuer à chercher, voir si je trouve pas une bonne idée, une autre bonne idée. Allez, pour pour la laïcité, quoi. Allez, au revoir.
Merci pour tous ces messages, chers... AMG, notamment ce dernier message. Voilà des années et des années qu'on s'échine à essayer de faire comprendre ce qu'il y a derrière ces histoires de laïcité. On a fait des... J'ai couru dans l'escalier, excusez-moi. Je suis un peu essoufflé. Vous vous souvenez peut-être des reportages qu'on avait fait à Flers, dans l'Orne. Des histoires de voile à l'école... On est revenu très souvent sur ces thèmes des mosquées, comment faut-il les financer, l'islam, l'islamisme, les problèmes que ça pose, etc. Et à chaque fois, on a dit, voilà, derrière tout cela se cache un racisme acceptable, un racisme à peine voilé. Il y a eu, l'an passé, l'histoire de la burqa. Et cette fois-ci, eh ben, voilà, le voile est tombé, c'est le cas de le dire. Et c'est assez heureux de voir que tout le monde a compris ce qui se cache derrière ces débats, soi-disant, sur la laïcité. C'est simplement un racisme qui était acceptable, mais qui ne l'est plus. Les ficelles sont trop grosses, ça se voit. Et c'est assez heureux que ça se voit, que ce soit aussi énorme et aussi gros. C'est pas du tout notre sujet du jour, mais c'est ce message, ce dernier message qui me fait... Vous dire ça, hier, on était à Neuilly-Mines, on était avec ses enseignants, avec ses profs qui, comme dans beaucoup d'autres lycées, collèges, villes en France, se mobilisent et luttent contre la destruction de l'enseignement, contre les suppressions de postes. Et on reçoit beaucoup de messages, hélas, on ne va pas tous les diffuser. Mais alors, on voudrait vous dire que c'est que la moitié de la vérité, hein, ce qu'on vous a montré hier. C'est pas partout comme ça. Il y a des endroits en France où l'enseignement, ça se passe très bien, où on a des élèves heureux, des enseignants souriants, et des endroits où ça se passe très bien, très harmonieusement. Et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Tout n'est pas foutu, tout n'est pas cuit. Il y a des choses très positives dans notre pays. Et notamment, on va dédier cette heure... à Jonathan, vous savez, le jeune qu'on avait rencontré hier et qui rêvait d'apprendre le japonais depuis Neuilly-Mines où il est. Il se fait une grande idée du Japon et il veut apprendre le japonais, ce qui est très bien. Mais il n'a jamais eu, pour jusque-là, l'occasion de venir jusqu'à Paris. Eh bien, on va lui montrer comment ça se passe à Paris et comment on enseigne à Paris. Dans certains quartiers de Paris. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous, nous sommes parents d'élèves à Saint-Anne-Châtel, petite commune à côté de Roanne, dans la Loire. En septembre 2010, on nous a supprimé une classe et nous venons d'apprendre la suppression de la troisième classe pour la rentrée. Il nous manque deux élèves. Nous avons jusqu'à vendredi pour nous mobiliser. À partir d'aujourd'hui, nous occupons l'école. Il est temps de réagir. C'est la mort de notre village programmé. À tous ceux qui se sentent concernés et pour nous soutenir dans notre lutte, rendez-vous à la mairie du village, donc à Saint-Anne-Châtel, mardi 5 avril à 20h30, pour mettre en place des actions coup de poing. Merci, merci à tous.
Mais les gens ont peur, mais les gens en ont marre. Le cul entre deux chaises, c'est tout un art. Mais on ne demande pas une vie de roi, mais le droit de vivre la tête droite et pas la main dans le sac. Quand on soucie, on oublie que le monde est vaste, que l'important est là. Quand on soucie, bien trop souvent on se tait, alors ce qu'il faut faire c'est se battre. C'est pas un air de rap, c'est le cri de ma mère, de toutes les autres, et qui s'inquiètent d'Afrique aux Philippines pour l'avenir de leurs fils-filles. C'est le cri de mon grand-père, des conséquences de la guerre, de ma grand-mère, cette solidaire, de Rouen à Perpignan, de Valence à Nantes. La révolution est imminente et ceci n'est plus un chant, mais les tripes d'un mouvement de 7 à 77 ans. Monsieur le Président, vos torts sont évidents, mais rendez le gouvernement aux petits-enfants des combattants qui parleront du plaisir du dimanche, du travail humble de l'homme aimant, bien mieux que vous qui ne faites des amis que par l'argent. Mais quelle est cette vie dans laquelle on vogue, où l'éphémère est le mot d'ordre? Mais donnez-moi l'éthique et pas des types autodestructifs. James Bond n'est pas exclusif, c'est l'ampoule réduite par les Suisses. Je n'ai malheureusement aucune solution. Je suis moi-même au fond de ce sable mouvant. Mais je suis sûre qu'il y a dans ce monde assez d'intelligence pour arrêter cette course et tous ensemble mettre la science au service de la terre et non des charlatans. C'est Catherine de Barcelone. Un petit message pour là-bas si j'y suis.
Ben on est un secteur effectivement très bouché, où il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, où effectivement les derniers chiffres, donc pour la région, c'était quand même 15% de personnes illettrées. Donc effectivement, le fait de retirer les moyens au niveau de l'école, on ne va pas aider effectivement les futurs étudiants et les futurs lycéens.
L'histoire géo en S devient une option. Donc c'est dramatique, il brade toute l'éducation, quoi. On ne peut pas accepter ce genre de choses-là, c'est pas possible. Moi, je pensais que l'éducation, c'était pour former des citoyens avant tout.
Parfois, dans ma fonction, même souvent, dans ma fonction, je ne fais que reproduire des inégalités sociales. C'est le contraire de ce pourquoi j'ai enseigné, en fait. Et c'est ce qu'on dénonce. Dans le fond, les histoires de moyens, de chiffres, de classes, on dénonce en fait un système dans lequel on est obligé, si vous voulez, de se soumettre à cette logique de la reproduction sociale.
Bon, ça c'est vrai qu'en général, dans une école privée, parce que nous sommes une école sous contrat, mais privée, donc en général, je dois dire qu'il est très rare que nos enseignants ne se mettent en grève. C'est sûr que les parents apprécient chez nous cette sécurité-là. C'est certain.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec François Ruffin et Charlotte Perry. L'école transforme ceux qui héritent en ceux qui méritent. Pierre Bourdieu.
On a une disserte pour jeudi prochain.
T'as une disserte?
Oui.
C'est sur quoi?
Devant nous.
Devant nous, nous rendre maître et possesseur de la technique. Cool, hein?
C'est en philo, ça?
Oui. Et on va monter. Et qu'est-ce que j'ai dit, du coup?
Allez, on monte.
Marie, éteins là. Première aile.
Ah.
Vous êtes une star, je pense. Tout le monde dit, mais qui c'est elle?
Là, on arrive dans le centre de nœuds, c'est ça?
Ouais, bah, là, il y avait la mairie. Là, il y a la place principale et là, on s'en va vers Verquignol.
Nœuds les mines, pas de Calais.
Les manifestations, on est passé par là, justement. On a suivi la route là qu'on est en train de prendre.
Jonathan, 18 ans, élève en terminale au lycée d'Artois.
Là, il y a notre parc. Là, il...
Ah, c'est un terrain de foot?
Ouais, plutôt. Il n'y a rien de spécial après. Enfin, après, on va arriver dans les champs.
Là, c'est les terrils, c'est ça?
Ouais. Bah, vous allez voir, on en croise souvent. Ça vous étonne?
Moi, c'est la première fois que j'en vois. Hein.
Ah ouais, c'est vrai, ça paraît. et vice-versa. Moi, ça me fait peur quand même d'aller à Paris. Parce que j'ai fait une demande de bourse, forcément, je vais pas faire des allers-retours tous les jours. Et du coup, vivre là-bas, tout ça, alors que j'ai jamais été.
T'as jamais été à Paris ?
Non. Vous avez un peu peur. En plus, les gens, ils ont des a priori par rapport à Paris. C'est dangereux, tout ça.
Qui est-ce qui dit ça ?
Bah, les gens en général. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit « Fais attention, Paris, c'est dangereux, il y a plein de fous. »
Les grandes villes.
Ouais. Tu t'en vas, Marie ? Au revoir.
Au revoir. Faneuil, ici ?
Non, ça, c'est le nom de la rue.
Ah, pardon.
C'est Noyelles-les-Vermelles, ici. Ma soeur habitait dans l'appartement au-dessus, avant.
Ah, ici, là ?
Ouais. Bah, en général, c'est ça, dans les familles du coin. On a souvent notre famille tout près de chez nous. Je veux dire, il y en a pas un qui est parti, qui a tenté l'aventure, quoi. C'est pour ça aussi, d'un côté, on veut se dire, on aimerait bien sortir de tout ça, quoi. Puis le fait de pouvoir faire des études, c'est quand même une chance. Dans le sens où on peut partir, on peut essayer autre chose, on peut changer de vie, enfin. Je veux dire, je préfère avoir des rêves un peu trop gros et à la rigueur, faire du mieux que je peux, que me dire, ouais, donc je vais faire mes études à Neuilly-les-Mines, mon BTS à Béthune et je vais avoir mon travail à Neu. Faut bien quand même essayer.
Il y a les enfants.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Mais non, Jonathan, il ne faut point avoir peur de Paris. Paris saura t'accueillir, te prendre dans ses bras. Viens, Jonathan, venez, jeune des bassins miniers, venez, Paris vous attend, Paris vous accueille. Vous pouvez y faire vos études, y poursuivre vos études, y apprendre des langues étrangères. Dans notre pays, chacun a sa chance. Il y a pour cela l'éducation. Si vous travaillez, eh bien, vous pourrez vous aussi mériter et puis vivre votre vie et vous développer. Non, écoutez, regardez où nous sommes. Le décor est magnifique, non ? Regardez sous ce ciel d'Île-de-France, non ? C'est ce printemps qui vient. Nous sommes à l'école active bilingue Janine Manuel. L'école active bilingue. Bilingue, eh bien voilà, vous pourrez apprendre des langues. Vous pourrez, mon cher Jonathan, apprendre le japonais si cela vous plaît. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Rien ne peut vous arrêter. Vous avez compris, aujourd'hui, on va parler de la reproduction des inégalités. On fait mine dans notre pays, toujours aujourd'hui, non sans un certain toupet, de lutter contre l'inégalité. L'inégalité, on le sait, commence par le droit d'héritage. Lutter contre l'inégalité commence par l'abolition du droit d'héritage. Tant qu'existera cette différence héréditaire, tant qu'il y aura des privilèges qui se transmettront par la naissance, l'inégalité subsistera. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, de braves gens comme vous et moi, souhaitent laisser quelque chose à leurs enfants. Un petit bien, quelque chose, afin de mieux démarrer dans la vie, être à l'abri du besoin, quoi de plus généreux. Et oui, mais c'est comme ça que l'inégalité se reproduit matériellement. Je parle du patrimoine, mais il en est un autre qui va avec celui-ci. C'est l'héritage intellectuel, culturel, immatériel, et qui est très important, on le sait bien. Est-ce qu'on lutte efficacement contre tout ça ? En principe, dans les textes, oui, dans les lois, mais pas dans la pratique, on le sait. Et aujourd'hui, ces inégalités, tout le monde le reconnaît, les études, les statistiques, et puis chacun d'abord dans sa propre vie, voit ces inégalités s'accroître, à commencer évidemment par les inégalités à l'école. L'école transforme ceux qui héritent en ceux qui méritent. Dit Pierre Bourdieu, le système scolaire contribue à convaincre chaque sujet social de rester à la place qui lui incombe par nature et de s'y tenir. La violence symbolique est une violence qui s'exerce avec la complicité tacite de ceux qui la subissent, cher Jonathan, et aussi souvent de ceux qui l'exercent dans la mesure où les uns et les autres sont inconscients de l'exercer ou de la subir. Je vous souhaite, cher Jonathan, comme moi, quand j'avais votre âge, de rencontrer quelqu'un qui vous dira ce qu'on m'a dit quand j'avais votre âge. Il faut apprendre le langage de l'ennemi. C'est jusqu'à 16 heures, c'est là-bas si j'y suis. L'école transforme ceux qui héritent en ceux qui méritent.
Madame Da Silva, allez me chercher les macarons pour le thé, s'il vous plaît. Pierre-Étienne, vous prendrez bien un peu de ce thé maltais. C'est magnifique ce que vous jouez, j'adore le Brahms. C'est quelle pièce? Oh, on entend comme le new metal de Pierre-Édouard.
Pierre-Édouard, baisse ta musique. Pierre-Édouard, je vais appeler ton père. Je suis un méchant petit bourgeois, je fais du tort à mon papa. Je suis un petit bourgeois méchant, je fais du tort à mes parents. Il a plus de 1000 ouvriers, mais le peuple m'ennuie vraiment. Je trouve ça moche et puis ça sent. Je parle verlan devant ma mère, car je sais que ça l'exaspère. Je parle pointu devant les petites gens, je le regarde d'un air méprisant.
Méchant, méchant, méchant petit bourgeois. Méchant, méchant.
Papa me paye à des écoles, à Oxford et à Bristol. Mais je me suis fait virer. Les rosbifs, je peux pas les saquer. Je traîne avec des petits trafiquants, toujours dans les mauvais plans. Mais je m'en fous si je perds des liasses, car papa est blanc.
Méchant, méchant, méchant petit bourgeois. Méchant, méchant. Méchant petit bourgeois, méchant, méchant.
Pierre-Édouard, Pierre-Édouard, arrête ta guitare tout de suite. N'oublie pas que tu as ton cours de squash à 5 heures. De mes choix. Ce sont mes heures, tu fumes encore des cabinasses. Pierre-Édouard, Pierre-Édouard, ouvre-moi la porte, ou je vais appeler ton père.
Retour à Paris. Hier, on était à Neuilly-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, où on a suivi la mobilisation des lycéens et des enseignants contre les suppressions de postes au lycée. On a rencontré Jonathan, Omérine, Nadia et bien d'autres adolescents pour qui l'école, l'éducation est la seule manière de quitter leur milieu, d'avoir accès à une réelle mobilité sociale. Et dans le train du retour, on a rencontré François Latour. François Latour travaille pour un grand pont de la pomme de terre, installé aux États-Unis. On a appris qu'il se rendait à Paris pour trouver une école pour la fille de son patron, qui rentre vivre en France avec sa mère. Mais cette dame, nous a-t-il dit, ne veut pas retourner vivre dans le Nord. Les terrils, les champs de patates, ça la déprime. Elle préfère les avenues chics de Paris, les immeubles haussmanniens. Et puis la petite est bilingue. Ça serait dommage qu'elle perde son anglais. Alors François Latour va visiter l'école active bilingue, l'EAB, près du parc Monceau, dans le 8e arrondissement. Et nous, on a décidé de l'accompagner, pour voir la différence avec Neuilly-les-Mines. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec François Latour pour aller rencontrer Madame Zeller, la directrice de l'école active bilingue.
Bonjour, ça Bonjour.
Madame Zeller.
Charlotte Perry.
Voilà. Bonjour. Très bien.
Je vous accompagne.
Voilà. Et je vous présente mon adjointe parce que j'ai pensé que ça serait intéressant.
Mrs. Knight.
Mrs. Knight.
Bonjour.
Donc américaine, qui est donc mon adjointe, ma directrice adjointe. Je vous reçois un peu dans mon bureau peut-être avant. Allez-y.
Vous avez un beau dessin d'enfant aussi. Enfin, c'est une peinture, là.
Justement, les enfants de l'atelier de peinture qui, en fin d'année, m'ont offert ce beau tableau qui représentait l'école. Donc, dans le parc, avec les balançoires, les voitures des parents qui viennent les chercher. Alors, donc, on demande 350 euros de frais d'inscription. Ensuite, la scolarité, donc, de 1365 euros.
Par trimestre.
Par trimestre.
Il y a trois trimestres dans l'année.
Trois trimestres, oui.
Donc ça fait aux alentours de 4 000 euros.
Ouais, ouais. Et puis au niveau de la demi-pension est donc à 500 euros.
Par trimestre.
Par trimestre.
Donc ça fait 1 500 euros à l'année. Quoi.
Voilà. Et le repas qui est pris par ticket est à 13,50 euros.
13 euros pour un repas.
Mm.
C'est un restaurant, quoi.
C'est un vrai restaurant, voilà, 3 étoiles.
Donc ça fait, bon, je ne vais pas faire des calculs, mais ça fait en gros 4 000, 5 500, 5 800, enfin près de 6 000 euros à l'année, quoi. D'accord. Je ne vais pas faire le chèque tout de suite.
Pas de problème.
J'ai une question. Ah, attendez.
Oui.
C'était en fait de savoir, enfin, vos instituts se mettent en grève, enfin, c'est, vous voyez, la grande inquiétude des grèves en France.
Bon, ça, c'est vrai qu'en général, dans une école privée, parce que nous sommes une école sous contrat, mais privée. Donc, en général, je dois dire qu'il est très rare que nos enseignants se mettent en grève. C'est sûr que les parents apprécient chez nous cette sécurité-là. Mmh, c'est certain.
Bon, ben, nous voilà rassurés pour commencer. Au moins, on n'a pas ce risque-là, quoi. Cette insécurité de ces personnels qui se mettent en grève, en plus de tout ce qu'ils ont déjà, vous avez compris, ça se passe bien. On est avec Monsieur François Latour qui, vous avez compris, quelle est sa quête, celle d'une bonne école pour des enfants, voilà, qui bien, qui ont envie de sécurité, qui ont envie de calme, qui ont envie d'éducation et bilingue en l'occurrence. Alors notre Charlotte Perry de la base où j'y suis l'accompagne.
Ça c'est une classe de moyenne section.
Je vois que les petits enfants portent des uniformes apparemment.
Oui, tout à fait. Nous avons un code vestimentaire, un code couleur de 3 couleurs, donc bleu marine, gris et du blanc, pour d'une part repérer tous nos élèves qui sont en récréation au parc Monceau, donc pour les visualiser, les repérer sur un plan sécurité.
On va pas les perdre, alors.
Voilà, tout à fait. Mais surtout aussi sur un plan d'éducation, c'est-à-dire que nous sommes dans une école pour vivre ensemble, pour apprendre ensemble et pas pour émettre de différences sociales ou... Voilà, l'enfant doit être valorisé pour ce qu'il est avant tout. Bon, on va continuer un peu.
Il y a des enfants qui arrivent et qui ne parlent pas français, par exemple ?
Oui, tout à fait. Nous avons des petits-enfants tout à fait anglophones ou d'autres nationalités qui n'ont absolument aucun français. Madame Knight fait un gros travail d'accueil pour leurs parents.
Donc, les enfants, ils viennent de plusieurs pays différents. C'est-à-dire que cette année, nous accueillons 42 nationalités. Donc, pour moi, le plus important, c'est l'accueil des familles. C'est-à-dire que les familles se sentent bien et en sécurité à l'école. Donc, ça se passe par un premier rendez-vous, justement, où avec moi, avec Madame Zeller, nous expliquons un tout petit peu la France. Et de mon point de vue, vu de l'extérieur, c'est-à-dire vu de quelqu'un qui est expatrié, avec tous les challenges que ça implique, on présente l'école comme vraiment une communauté.
Vous disiez 42 nationalités, japonais, enfin, c'est des immigrés. Mais c'est pas les, enfin c'est des immigrés un peu haut du panier ou comment c'est?
C'est un peu tout le monde. Ouais. En ce moment, ouais. On a accueilli des enfants islandais cette année, ainsi que des enfants Nouvelle-Zélande, Éthiopie, Thaïlande, le Japon, la Corée, les États-Unis évidemment et partout en Europe.
Parce que je pense qu'il y avait aussi cette question, c'était un peu la question des fréquentations, entre guillemets, vous voyez, que ça soit des bonnes fréquentations. Quoi.
C'est sûr que nos familles sont souvent des enfants issus de parents qui travaillent déjà beaucoup avec l'international. Ce sont des parents en général, effectivement, très ouverts et très attachés à cette notion de multiculturel. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui nous caractérise le plus ici. Et c'est ce que nous apprécions le plus. Pour nous, c'est un véritable atout et nous y tenons énormément.
L'école du monde.
Voilà, une école en tout cas ouverte sur le monde avec dans l'objectif de former des enfants capables d'être à l'aise dans le monde par la suite. Et si vous voulez, petit, dans chaque classe, ils côtoient donc des enfants de langues différentes, de cultures différentes, de pays différents, et rien ne les choque, rien ne les surprend vraiment. Ça se passe dans un univers très facile, de respect, de tolérance, enfin en tout cas on essaie, et ça se passe très très bien. Et c'est pour eux une grande richesse que de côtoyer comme ça des enfants venant de tout horizon. Voilà.
Et voilà, l'international sera le genre humain, le rêve de cette école. Le but de cette école, c'est l'international. Vous connaissez la chanson et l'hymne, à moins que je me trompe, c'est possible. Et pour ne pas rester dans l'erreur ou y plonger, voici Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson qui nous éclairent de leurs sciences sociologiques, spécialistes qu'ils sont, des mondes bourgeois et riches. Ils sont très rares parmi les sociologues, vous le savez, à s'être penchés sur ce petit monde.
Monique Pinson-Charlot, vous qui êtes spécialiste de la haute bourgeoisie, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu ce qui caractérise le plus les écoles des milieux favorisés et le type d'éducation de ces milieux-là ?
Alors, ce qui me semble tout à fait spécifique, c'est ce que les sociologues appellent l'éducation totale, c'est-à-dire ce sont des écoles, qu'elles soient privées, publiques, confessionnelles ou laïques, qui ont toutes pour principe de non seulement transmettre du capital scolaire, des savoirs, de l'instruction, mais également d'apprendre aux jeunes, aux enfants, aux adolescents à travailler ensemble, avoir des projets, à s'habiller, à se respecter, à rendre service. En fait, au-delà de l'instruction, toute une éducation, des manières de vivre, des savoir-vivre, qu'ensuite, ils transmettront à leur tour à leurs enfants. C'est-à-dire que la grande bourgeoisie, comme l'aristocratie, la noblesse autrefois, a toujours été très cosmopolite. Parce qu'au fond, les rapports sociaux de domination se constituent à l'échelle du village, de la ville, de la région, de la nation et du monde tout entier. Donc la grande bourgeoisie a toujours valorisé les cultures autres que la sienne, mais avec des choix aussi. C'était pas n'importe quelle culture, ça a évolué en fonction de l'Europe, puis l'Amérique latine. Là aujourd'hui, les jeunes n'hésitent pas à apprendre le chinois, ce qui était impensable il y a peut-être même 10 ans. Donc on voit comment ils suivent les rapports de force à l'échelle internationale dans le choix, par exemple, des langues. On voit bien avec expatriés, étrangers d'un côté ou immigrés de l'autre, à quel point la langue trouve les mots pour stigmatiser positivement les dominants parmi la population étrangère et stigmatiser négativement les dominés.
Michel Pinson.
Ces grandes écoles privées pour la haute société sont des écoles strictement internationales. Ce qui fait que ces enfants, non seulement sont parfaitement bilingues lorsqu'ils arrivent au niveau du baccalauréat, ils sont trilingues, il n'y a pas de problème, et parfaitement, mais aussi quelque chose de très important qui les suit toute leur vie, c'est qu'ils ont un carnet d'adresses de copains qu'ils se sont faits dans l'éducation, mais qui ont des positions de responsabilité et de haute position en Afrique, en Asie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, enfin partout dans le monde. Ce qui fait un capital de relations qui est lui aussi international.
Qu'est-ce que je pourrais dire ? J'ai rien à chanter. Pas d'enfance martyre, personne m'a aidé. J'ai jamais été battu, ni fouetté, ni giflé. Mais pourquoi ? Pourquoi moi ? J'ai beau chercher partout, ça c'est sans arrêt mon passé, revoir toute mon enfance. Mais j'ai jamais souffert les vacances à la mer, les cadeaux à Noël, les habits à la mode, les petits cours de latin. Y en a qui ont du bol, qui ont de longues maladies, des parents alcooliques, une lourde hérédité, eux ils en ont à dire. Moi j'ai rien à chanter, je virais toutes mes cuties, sauf une fois, à cause du timbre qui s'était décollé dans mon bain. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues.
T'as vu ça?
Ouais, ouais. Tout ça, faut le lire.
Ouais. Tu me la lis?
Ah, d'accord. Bon.
Jonathan, 18 ans, élève en terminale au lycée d'Artois de Neuilly-Mines. Lettre de motivation.
Madame, monsieur, bonjour. Je m'appelle Fokker Jonathan et je suis actuellement en classe de terminale littéraire au lycée d'Artois de Neuilly-Mines. Si je souhaite rejoindre la licence LLCE en japonais dans l'université de Paris Diderot, c'est tout d'abord car celle-ci m'intéresse beaucoup et réussit à faire coïncider en moi mes vœux pour l'avenir et mes goûts en général. La culture japonaise m'a toujours vraiment intéressé, même fasciné à vrai dire. Je tiens à dire que j'y ai un attachement tout particulier, même si personne dans ma famille ou dans mes amis proches ne s'y est jamais penché. Et en dehors de tout stéréotype disant que les gens n'aiment le Japon que pour ça, je lis énormément de mangas. Non seulement parce que cela me plaît, mais je trouve que les mangas révèlent un certain côté de la culture japonaise. Des choses que les gens aiment, des tabous ou encore des craintes. Pour prendre un exemple sur l'événement tragique qui vient de se venir aux Japonais, il y a un manga qui se nomme Tokyo Magnitude 8.0 de Masaki Tachimada, qui fait référence à ce que pourrait ressembler ce genre de situation si elles avaient à arriver. J'essaie déjà de mon côté de préparer quelque peu en apprenant la langue de la seule façon dont je peux, les livres. Je me suis procuré une sorte de petit manuel pour tenter d'apprendre la langue japonaise par mes propres moyens. Suivre un livre à l'aveugle en guise d'apprentissage est beaucoup plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Alors, j'aimerais faire tout ce que je peux et tout ce dont je suis capable, jusqu'à ne plus en pouvoir s'il le faut, si je suis accepté par mes élèves de votre université. En vous priant d'agréer, madame, monsieur, mes sentiments les plus distingués.
Voilà la lettre de Jonathan de Neuilly-Mines qui veut donc apprendre le japonais, qui rêve d'apprendre le japonais, culture dont il a pris connaissance à travers la lecture visiblement assidue des mangas. Quelles sont les chances de Jonathan? Quelles sont les chances réelles de Jonathan? Il va falloir qu'il bosse beaucoup, beaucoup pour y arriver. Peut-être y arrivera-t-il, et c'est évidemment ce qu'on lui souhaite, mais c'est pas gagné, comme on dit. Les inégalités s'accroissent en France. Les inégalités sont dans l'éducation, reproduites dans l'éducation. Et on a lutté, évidemment, depuis fort longtemps. On évoquait hier Condorcet, des auditeurs qui évoquaient Danton, enfin les grands révolutionnaires, l'esprit des Lumières, on a cité Bourdieu, mais voilà autant de gens qui ont bel et bien pissé dans des violons.
C'est un très très beau bâtiment, c'est tout en bois là.
Là oui, c'est un ancien hôtel particulier qui donc nous sert maintenant d'école et qui a été restauré, aménagé en école.
Et vous savez un peu ce qu'ils viennent? Enfin, ça devient l'élite de la nation, pour ainsi dire. Vous savez un petit peu ce que...
Ce sont en général des... Nous avons une association d'anciens élèves, oui, puisque nous recevons maintenant les enfants de nos propres élèves, presque. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je dirais pas une élite, je dirais des gens qui sont très à l'aise, qui ont en général, oui, des situations intéressantes, en tout cas, dans le monde, très souvent axé avec l'international. C'est sûr, ils ont gardé en tout cas cet esprit international, cette ouverture. Ouais. Ça, c'est une classe de CE1, donc dixième. Voilà.
C'est joli, là, le parc.
Ouais, c'est très joli. C'est pour ça que les enfants ont beaucoup de chance ici, parce qu'ils vivent dans un environnement, enfin, ils travaillent dans un environnement très agréable, très privilégié. C'est vrai qu'on a des belles moulures au plafond. Parfois, sous les lino, il y a des ravissants parqués à lambris.
Et pour le sport, alors, il y a un terrain de sport ici ?
Alors, le sport, non. Nous utilisons le parc pour aller faire du sport.
Aller voir le parc,
voilà, bien sûr. Oui, oui. Ouais.
Moi, je connais.
C'est un très beau parc, oui, le parc Monceau. Ouais. C'est un ancien parc aussi, très joli, dans les beaux quartiers de Paris.
Ils vous font des bisous.
Je suis très populaire. Ça, c'est une classe de grande section.
Ils se mettent en rang pour aller à la récréation.
Mahiro, par exemple, est un petit japonais qui est chez nous depuis l'année dernière.
On joue au sable. On joue jamais au jeu parce que c'est dangereux.
Vous avez peur de tomber ?
Non, c'est la maîtresse qui dit qu'on... Parce que c'est trop dangereux avec la maîtresse parce qu'elle surveille tous les enfants. Alors, c'est pas pratique.
Tu t'appelles comment ?
Augustine.
Et toi ?
Hello, Clélia. Après, on dit fine, thank you.
C'est elle, Clélia.
Moi, j'habite à côté de l'école.
Et moi, j'habite à Bencano.
J'habite tout près aussi de l'école.
Et toi aussi ?
J'habite rue de Courcelles. Mon ancienne rue était rue Manin.
On les suit au parc parce que là, ils ont besoin de sortir.
Non. Donc en fait, on est dans l'enceinte du parc Monceau ici.
Voilà, tout à fait. C'est une des petites impasses qui mènent au parc. Et vous avez l'équivalent à la sortie de l'autre côté. Voilà.
Et en face, là, ce sont des riverains
ce
ou qu'est-ce
que... Des particuliers, oui, tout à fait.
C'est magnifique avec cette dorure.
Ah oui, oui, c'est tout à fait magnifique. Mais ça, c'est classé d'ailleurs. Mais nous aussi, hein, on a une partie classée derrière.
Ah,
la petite terrasse, je crois, derrière est classée. Voilà.
Ce qui patrimoine.
Oui. On ne peut pas faire ce qu'on veut non plus au niveau décoration, enfin extérieur en tout cas.
Il n'y a pas de lac où se noyer dans le parc Monceau ?
Non. Bon. Enfin, il y en a un, mais il est très loin. Il y a un petit lac à l'autre bout du parc, mais nous n'avons pas accès. C'est vrai que pour les petits, c'est formidable parce qu'ils peuvent observer les feuilles, les saisons. Enfin, voilà, c'est très agréable. Et maintenant, c'est devenu beaucoup plus démocratique dans le sens où les pelouses autrefois étaient tout à fait interdites. Et maintenant, ils ont ouvert certaines pelouses. Donc l'été, les enfants peuvent avoir accès aux pelouses.
Déjeuner avec leurs parents s'ils sont externes.
Voilà, tout à fait.
Et moi, je m'appelle Marie.
And you?
Tess. I'm French.
Et vous avez quel âge?
5 ans. 4 ans et demi. Elle est plus grande que moi parce que elle mange beaucoup de légumes mais moi pas beaucoup.
Et qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand, vous savez?
Moi je vais être architecte. Et moi je vais être pharmacienne comme ma maman.
Et moi?
Et toi?
Moi mon papa il était dans les chevals, je vais avec des animaux.
Et ben mon papa il passe à la télé, bah, il dit des trucs drôles. Et aussi il fait un spectacle.
D'une certaine manière, on est socialisé aussi par le lieu dans lequel on vit.
Michel Pinson, sociologue.
Ce n'est pas la même chose d'aller jouer pendant la récré dans le parc Monceau que d'être dans la cour de l'école sous les panneaux de basket et avec un sol en macadam. Et dans un espace relativement étroit, on est toujours encore les uns sur les autres, même dans la cour de récré. Il y a les condisciples, mais dans un milieu donné, c'est-à-dire qu'on leur apprend aussi à aimer les belles choses. De cette façon, il n'y a pas besoin de leur donner des préceptes. Ils voient des bâtiments qui ont de l'allure, une architecture spécifique, très, très ornementée, souvent pour les vieux bâtiments du 19e siècle, comme autour du parc Monceau. Il y a de l'espace dans cet habitat. Donc ils prennent l'habitude d'avoir de l'espace à leur disposition, ce qui est un luxe que les gens qui vivent en HLM dans des espaces petits, dans des espaces collectifs qui sont dégradés, qui n'ont aucune allure esthétique, ont une autre représentation du monde, une autre représentation de la ville.
C'est-à-dire que cet exemple de cette école dont la cour de récréation est le parc Monceau montre bien la collusion entre les élites privées et les élites d'État.
Monique Pinson-Charlot, sociologue.
On retrouve la même chose de cette appropriation privée d'espaces publics dans le bois de Boulogne, où de nombreux cercles, depuis le Second Empire, ont des enclaves totalement privées, interdites au public. Alors là, l'école active bilingue, c'est pas tout à fait la même chose. Ils utilisent un espace que d'autres utilisent. Mais moi, j'ai voulu prendre des photos de cette cour de récréation improvisée dans le parc Monceau. Et je me suis fait rappeler à l'ordre par les instituteurs qui surveillaient les enfants. Donc on voyait bien qu'ils me renvoyaient l'idée que les enfants étaient chez eux dans le parc et que, bien sûr, j'y avais ma place, mais je n'avais pas le droit de faire des photographies.
Des rivières de vin de qualité et des milliardaires bronzés toute l'année, des actrices fort bien proportionnées, et puis des caniches bien toilettées, des piscines pour plonger tout habillé, et puis quelques biches en liberté. Tout autour de la propriété, quelques barbelés électrifiés. Hollywood, Hollywood, assis tout été comme à Hollywood. Hollywood, tes chewing-gums, tes salles de bain, pourquoi t'es pas à Pantin?
Donc là, il y avait l'hall d'entrée. En fait, c'est sur trois étages. Donc, c'est un ancien hôtel particulier qui a été ménagé en école. Donc toutes les chambres, le salon, tout ce qui est salle à manger sont des salles de classe. Donc, c'est assez marrant.
Soirée des anciens élèves de l'école active bilingue.
C'est aussi ça l'idée, quoi, c'est pouvoir revenir dans ce lieu. C'est ça qui nous avait plu de faire l'événement ici.
Jérôme Baudin.
Moi, je suis arrivé en 1986, en 9e, et je suis reparti l'année du bac, en 1996. J'y suis resté 10 ans. Il y a eu une ambiance particulière qui est assez différente de l'ambiance publique. Moi, j'étais dans le public avant, c'est vrai que c'est assez différent. C'est peut-être plus compétitif, pas forcément au niveau des cours, mais c'est socialement plus compétitif. Il y a une forme d'émulation positive. Généralement, les gens ont plutôt pas mal réussi quand on regarde avec le recul, donc...
Toi, tu fais quoi aujourd'hui dans la vie ?
Alors moi, je travaille dans une banque, je travaille au CIC, depuis 3 ans à peu près. Je suis analyste financier en bourse. Il n'y a pas ce côté-là, justement, un peu réseau. Vous avez fait telle école, vous avez fait cette école, donc vous allez avoir des passe-droits. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est vraiment l'accomplissement de soi, le travail. C'est des valeurs qui sont souvent véhiculées, peut-être plus internationales, plus américaines aussi. Plus que la pratique et la connaissance de l'anglais, c'est plus l'environnement en fait qui aide. C'est d'être familiarisé avec un environnement international, en fait, d'avoir fréquenté des gens qui sont étrangers, qui ont une culture différente. Et l'une des particularités de l'école, c'est que quand je voyage, j'essaie toujours de prendre contact avec un ancien qui est dans un pays. Au Japon, par exemple, l'année dernière, la Chine, l'année précédente, j'avais repris contact avec un ancien. Donc il y a toujours des anciens un peu dans le monde entier. Et c'est ce qu'on essaye aussi de développer avec l'association. Et l'idée part de là, en fait. Il y a un potentiel de développement de relations énorme qui est inexploité. Puis la valeur ajoutée d'une école payante, c'est malgré tout le réseau, les anciens. Donc c'est dommage de ne pas l'exploiter. Ouais.
Des gens qui commencent à arriver.
Ouais, j'arrive.
Et donc ça, c'est le jardin ?
Ça, c'est le jardin. Ça, c'est le jardin. C'est la cour, en fait.
Allez-y, avancez. Il y a peut-être des gens qui sont... je sais pas. Ça a l'air super bon, tout ce qu'il y a là.
Oui, c'est l'école qui a préparé tout ça. Il y a des pains surprises, tout un tas de choses qui se mangent directement dans les cuillères aussi, et en dessert.
Des verrines.
Ah oui, ça c'est des cuillères avec des...
Exactement, avec... Il n'y a pas assez de lumière pour que je vous dise ce qu'il y a exactement dedans, mais ça se mange du coup en un coup. Et on a aussi des verrines et d'autres petits pains qui vont arriver un peu plus tard. Et en dessert, on a beaucoup de macarons et le reste, beaucoup de petits gâteaux aussi.
J'ai fait CM2 jusqu'à la 3e.
Et ensuite, vous êtes parti ?
Bah ensuite, oui, parce que je me suis dit que c'était quand même intéressant de voir un petit peu autre chose. Et donc, je suis allé faire mon lycée. Est-ce que c'était vraiment autre chose ? J'en sais rien. Mais je suis allé faire mon lycée, en fait, dans le public. Dans le... Bon, voilà, dans le 16e arrondissement, j'avoue. Et voilà.
Il y avait une différence, justement. Vous avez vu une différence ?
Pas tant que ça. Bah non, parce qu'en fait, j'étais à Janson de Sailly, en fait, dans le 16e. Et donc, c'est à peu près le même type de population. C'est à peu... Enfin, ça reste quand même... C'est pas la diversité, quoi. Voilà.
Et vous faites quoi maintenant dans la vie ?
Moi, je suis en dernière année d'études en école de commerce, en fait.
Et là, récemment, tu as une rencontre
entre quoi ?
Oh, une rencontre entre l'intellect et le monde bilingue, le fait qu'on parle anglais un petit peu. Tout ça, c'est une ouverture incroyable sur le monde. On s'en rend pas compte, mais c'est vrai que ça nous ouvre aux gens, à toutes les cultures, à tout ça. Et c'est vrai qu'on a des valeurs humaines après qui sont incroyables. Simplement, c'est quand même une école privée, c'est une école où il y a de l'argent. C'est une bulle. La preuve, c'est voilà, où on est, regardez ce qu'on est en train de faire actuellement, en train de boire du champagne à volonté, près des Champs-Élysées. C'est l'école active bilingue. On n'a pas forcément conscience, mais EAB, c'est quand même très étriqué, c'est très...
C'est vraiment, en fait, il y a un peu de ça, c'est vraiment l'école de la diversité homogénéisée,
ouais,
en fait.
Il suffit de voir, regarde la soirée, juste regarde la soirée, regarde la diversité, regarde la soirée. Voilà. Et donc...
Il y a quelques Asiatiques.
Ouais,
japonais.
Il y a beaucoup de jambon-beurre, de babtou, hein. Il y a que ça. Mais c'est comme à Neuilly, c'est comme à Saint-James, etc. C'est que la différence, c'est qu'il y a un certain mépris vis-à-vis, par exemple, du surveillant. C'est-à-dire que le surveillant, on sait qu'il va... Mais c'est presque ça, c'est presque un pauvre. Et ça se sent dans l'attitude, c'est affreux, hein, de dire ça. Mais ouais, j'ai vu des comportements, j'ai entendu des choses quand j'étais plus jeune. C'est choquant, le mec qui dit, l'un surveillant qui dit, tu fais quoi là ? L'autre il dit, bah je fais rien, et pourtant je vais mieux réussir que toi. Et ça, franchement, ça fait mal.
Pierre Bourdieu expliquait que si on ne perçoit pas les inégalités sociales, la différence des mondes sociaux, eh bien, on se trouve condamné à expliquer toutes les inégalités, particulièrement en matière de réussite scolaire, comme inégalité naturelle, inégalité de don. Donc il s'agit d'abord de percevoir, d'être bien conscient des inégalités sociales. Et il n'y a pas 50 000 forces sociales, il y en a deux qui s'opposent, celle des dominants et celle des dominés. Je ne pense pas que nos amis Michel et Monique me contrediraient.
Récemment, l'OCDE vient de sortir des chiffres selon lesquels la France serait un des pays où l'origine sociale et la position des parents détermineraient le plus en fait la réussite scolaire.
Oui, mais moi, ça, je suis pas étonnée par ces statistiques, parce que c'est vrai que on a fait la révolution il y a plus de deux siècles, mais en réalité. La société française continue à fonctionner sur l'héritage et pas du tout sur le mérite, mais simplement, ce qui surprend dans ces statistiques, c'est que le mérite est tout le temps mis en avant, hein, par les responsables politiques. Mais ben voilà, c'est comme ça, les dominants avancent sous le masque du mérite pour mieux faire passer l'héritage.
Cette histoire de mérite, ce qui est l'une des inégalités les plus dramatiques, les plus dures enfin, à observer, de mon point de vue, c'est que c'est pas si faux que ça. C'est-à-dire qu'ils ont des qualités et des mérites réels. Par exemple, on parle de langue. Lorsque vous avez un jeune de 17 ans qui arrive au bac en étant parfaitement trilingue, il est clair que c'est rare, c'est une qualité rare, de même que beaucoup d'autres qualités qui sont par exemple le fait de maîtriser l'art de la conversation, de l'expression orale, ce qui leur permet d'être brillants. Le mérite, qu'est-ce que c'est le mérite ? Ils sont nés là où il fallait, mais le fait de naître là où il faut vous donne en définitive des qualités qui sont des qualités de la personne. Et autrement dit, est-ce que c'est juste, injuste, ce qui est injuste, c'est que à partir de la naissance, les inégalités du monde social sont inscrites dans les êtres, soit négativement pour ceux qui sont les plus défavorisés, soit positivement pour ceux qui sont les plus favorisés.
Tu t'appelles comment ?
Nadia.
Et t'es en quelle classe ?
Terminale, mercatique et ressources humaines.
Neulémine, devant le lycée.
Nous, on est déjà 35.
35 ?
Et des fois, on va dire que c'est difficile quand même. Donc si jamais, là, notre prof nous racontait que bientôt, ils vont faire des classes de seconde à 40, bah, les élèves, ils pourront plus poser de questions, quoi. Ils vont devoir travailler et essayer de comprendre chez eux. Ou alors prendre des profs particuliers, peut-être. Mais ça va devenir affreux, quoi. Après, les élèves qui auront les moyens, ils arriveront à réussir, mais les parents en difficulté, ils n'arriveront pas forcément à payer des cours particuliers. Et les élèves en difficulté, ils n'auront personne à se raccrocher. Et quand on sent comme ça qu'on n'a pas de soutien, ça ne donne pas envie de se motiver pour travailler. Mon père, il travaille sous Arras, il rentre tard, il part tôt. Je le vois pratiquement pas, donc il n'y a jamais le temps de m'expliquer. Mon papa, il travaille à Boyaval-Vampierre à Arras. C'est une entreprise de matériaux. Donc quand c'est comme ça, ils partent tôt et vers Mel-Arras, il y a bientôt une heure de route. Donc le temps de faire la route, revenir, il n'y a pas beaucoup de temps pour la famille, quoi.
Et ta mère, elle n'a pas le temps non plus ?
Mes parents sont divorcés. Ah. Et là, je vis chez mon père pour l'instant, donc voilà.
Et vous avez participé aux différentes manifs, aux différentes mobilisations qu'il y avait eu ici, au lycée, là, ouais ?
J'ai participé à toutes les manifestations, justement. Donc là, ils en refont une cet après-midi, à ce que j'ai compris. Ouais. Et je ne sais pas si je vais pouvoir y participer, justement, par rapport à mon retard par rapport au travail, tout ça. Donc je vais essayer de rattraper un peu vu que le bac arrive très vite là.
L'école transforme ceux qui héritent en ceux qui méritent. Merci à tous. C'était un reportage de Charlotte Perry avec l'aimable participation de François Latour. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Rémi Quincé et Pierrick Monsigny étaient à la technique aujourd'hui. Coy Nguyen et Franck Allerer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot et Marinette Houillet. Dans vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Énergie renouvelable.
Transport.
Logement.
Emploi.
Écolabel. Le développement durable, c'est chaque jour plus concret.
Du 1er au 7 avril, c'est la semaine du développement durable. Pour connaître les manifestations près de chez vous, rendez-vous sur semaine-du-développement-durable.gouv.fr.
Avec le Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après. Ceci est un message du ministère du Développement Durable et de l'ADEME.
Chouette! Demain à 15h pour la basse du Dispuy, on se retrouve. Je vous laisse pour les infos avec un peu de retard avec Delphine Simon. Salut!
Tout peut se dénouer dans les heures qui viennent en Côte d'Ivoire. C'est ce que déclare le ministre de la Défense, Gérard Longuet. Laurent Gbagbo négocie sa reddition. Deux de ses généraux sont en train d'en discuter les conditions. L'armée de Laurent Gbagbo demande l'arrêt des combats. De plus en plus isolé, le président sortant ivoirien serait réfugié avec une poignée de fidèles dans un bunker de sa résidence. La bataille d'Abidjan semble donc sur le point de se terminer. Une bataille qui a fait des dizaines de morts ces derniers jours, affirme l'ONU. L'intervention militaire de la France et des Nations Unies ont sans doute pesé. Une intervention que justifie cet après-midi Alain Juppé, le chef de la diplomatie à l'Assemblée nationale.
L'objectif de la France est clair, faire respecter le droit international. Et donc hier soir, le secrétaire général des Nations Unies a demandé à la France de faire intervenir Licorne en appui de l'ONUCI. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes aujourd'hui, je l'espère, à deux doigts de convaincre M. Gbagbo de quitter le pouvoir et de laisser Alassane Ouattara l'exercer comme le droit international et le résultat des élections le veulent.
Le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, une intervention qui suscite à gauche quelques réserves. Jean-Marc Ayrault, chef de file des députés socialistes, réclame des explications. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères viendront s'expliquer devant les commissions parlementaires en fin de journée. 4 heures de débat réunis en convention. L'UMP espère bien mettre un point final au débat sur la laïcité cet après-midi. Le patron du parti de la majorité, Jean-François Copé, présentera ses 26 suggestions. Moins d'un Français sur 4 approuve ce débat. à en croire un sondage Harris Interactive mené du 1er au 3 avril. 36% n'approuvent ni ne désapprouvent. Le gouvernement annonce une série de mesures pour limiter la flambée des prix pour les consommateurs, la flambée des prix de l'énergie. Il n'y aura pas de nouvelle hausse du prix du gaz au 1er juillet. En revanche, les prix de l'électricité n'échapperont pas à une augmentation. Quant aux compagnies pétrolières, elles seront mises à contribution. Au PS, 30 propositions phares. Le Parti socialiste présente son projet pour 2012. Il y a notamment la création d'emplois jeunes, une banque de développement pour les PME. Au total, 25 milliards d'euros financés par la suppression des cadeaux fiscaux. Nicolas Sarkozy a lancé ce matin dans la Somme le chantier final du canal à grand gabarit. La compétition se jouera entre Vinci et Bouygues. Ce canal doit relier d'ici 2016-2017 le bassin de la Seine au réseau fluvial d'Europe du Nord. Les policiers de la Grande Borne sont probablement tombés dans un guet-apens. Ils ont été pris à partie par une dizaine de personnes cagoulées en effectuant une patrouille à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Deux policiers ont été légèrement blessés par des pavés. Leur voiture a presque entièrement brûlé. Enfin, une décision attendue par le petit monde de la télé-réalité. La Cour d'appel de Paris condamne TF1 à transformer en contrat de travail la participation de 56 candidats de son émission « L'île de la tentation ». Chacun touchera entre 15 et 17 000 euros. C'est nettement moins que ce qu'il réclamait.
Tous les jours, oui. À partir de 11h...
Bon, ça suffit, parlez-nous au micro, vous deux.
Le fou.
Tu vois, Stéphane, c'est pas grave.
Du roi. Mon fils est un vieux schnock, ma fille est une vieille bille.
Stéphane Bern.
Quand je l'embrasse, elle pique, il en a marre des vieux.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Françoise Chandernagore, Anne-Marie Adine et Hervé Robert, rendez-vous demain mercredi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Bien sûr.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi.
Ben oui, oui, oui.
Tous les jours sur France Inter, à partir de 11h.
France Inter, partenaire de l'exposition Richard Prince, American Prayer, à la BNF François Mitterrand jusqu'au 26 juin 2011. L'exposition propose un voyage à travers la culture populaire et les contre-cultures américaines de la Beat Generation au punk. Richard Prince s'approprie les collections de la BNF tout en dévoilant des trésors de sa bibliothèque personnelle. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter présente Pina, un film de Wim Wenders pour Pina Bausch. Wim Wenders rend hommage à la chorégraphe en plaçant sa caméra pour la première fois au plus près de ses danseurs, d'abord sur scène, puis en les accompagnant dans une évasion hors les murs, dans des espaces naturels et des paysages urbains. Pina, au cinéma le 6 avril, en 3D dans les salles équipées. Retrouvez Wim Wenders le 10 avril à 10h dans Éclectique. France Inter. France Inter.
La différence.
Pour l'heure, il est 16h05. Très bon après-midi sur France Inter. C'est à vous, Frédéric Ledéon. Bonjour.
Et bonjour, Delphine. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Pour commencer, ce joli disque qu'on a entendu hier, le Stabat Mater de Pergolèse, mais pas seulement le Stabat Mater, d'autres œuvres, une cantate par exemple, assez peu connue, qu'on pourrait appeler Orfeo. Orphée, en fait, c'est Nel Chiuso Centro, donc dans ce centre fermé, cet endroit, cette prison où la pauvre Eurydice est tenue enfermée. Donc voilà, et le musicien Orphée la recherche un peu désespérément. Et vous savez que dans l'opéra, un homme peut chanter le rôle d'une femme parfois, et puis l'inverse est vrai également. Donc on va entendre l'aria, soit je m'en irai joyeux, soit ce sera le drame épouvantable, bien sûr, soit il va la retrouver, Orphée, son Eurydice, et la musique est plutôt tonique, donc on peut espérer que ça va se terminer parfaitement bien. Voici Anna Netrebko, chère cantatrice russe, avec l'orchestre de l'Académie nationale de Santa Cecilia, dirigé par Antonio Pappano.
Yeah.
luce.